Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est Le Énervé la suite, et ce soir, Polar en série, c'est un engrenage. Vous voyez où je veux en venir, j'en suis certain. Il suffit de regarder la rentrée télévisuelle pour bien comprendre qu'on ne va pas y couper. Le genre policier explose les quotas avec même la création d'une chaîne spéciale, hein, Polar Plus. Et puis lundi prochain, le retour tant attendu d'Engrenage, la série policière et judiciaire de Canal Plus qui a réveillé le genre en 2005. 2017 saison 6. Du coup, au Énervé, on s'est demandé avec Benoît Lagan, mais à qui le polar profite ? Au générique, Anne Landois, showrunner d'Engrenage, et Vera Peltekian de la direction de la fiction de Canal+. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Pierre Zeméniak, vous signez Exception française de Vidocq, que j'adorais, au Bureau des légendes, j'aimais bien aussi. 60 ans de série qui vient de paraître chez Vendémiaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Langlois, vous êtes...
L'anglais,
vous êtes critique série à Télérama.
Bonsoir.
À vous. Et enfin, Séverine Barthes, maître de conférence. Quand on s'appelle Barthes, on ne peut pas faire autre chose. À la Sorbonne Nouvelle, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Eh bien, le Énervé saison 3, ça peut commencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Un t-shirt garde-champêtre aujourd'hui.
Oui, c'est pour inciter les producteurs et les chaînes de télévision à
réhabiliter ce héros de nos campagnes.
Voilà, un nouveau type de flic, quoi, très proche de nous. La rencontre entre Victor Lanoux et Engrenage, par exemple, ça pourrait être le garde-champêtre.
Voilà. Ne rêvez pas.
Bon, les séries policières, Laurent.
Allez proposer
non, mais
ça,
mais ça pourrait marcher.
Plus,
il y en a...
Non.
Mais non, mais si, il y en a tellement des séries policières à la télé. J'ai feuilleté Télérama cet après-midi. Le dernier Télérama là, qui vient de sortir. Eh ben, regardez, samedi sur France 3, il y a Meurtre à Fort Boyard. Enfin, Meurtre dans l'île. Dimanche, il y a Les Enquêtes de Murdoch. Lundi, Le Retour d'Engrenage. Alors, mardi, mercredi, il y a même des séries américaines policières. Et puis, le jeudi, c'est le traditionnel polar sur TF1. Le vendredi, c'est le traditionnel polar sur France 2. Donc tous les jours sont polars. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais PJ, la série qui chroniquait le quotidien de la police judiciaire située près du canal Saint-Martin, la série signée Frédéric Krivine, eh bien, a débuté le 12 septembre 97, donc il y a quasiment 20 ans, jour pour jour. Et un peu plus tard, un an plus tard, il y avait une série qui débarquait aussi sur France 2, c'était Avocat et Associé, en 98, les producteurs d'Engrenage. Et sans le savoir, France 2 avait imaginé avec ces deux séries, s'ils avaient fait un mélange des deux, ça ferait Engrenage.
Vous êtes d'accord,
Anne Landois, que PJ et Avocat Associé annonçaient finalement en quelque sorte ce que vous alliez faire plus tard avec Engrenage.
Je vois de la surprise dans votre regard,
oui,
de l'inquiétude aussi.
Non, non, pas du tout d'inquiétude. Alors en effet, les producteurs d'Engrenage sont les producteurs historiques d'Avocat et Associés, qui sont aussi les producteurs historiques de, son nom m'échappe, Pause Café, qu'on a tous beaucoup regardé. C'était un autre genre, mais qui était quand même assez précurseur déjà à l'époque. Et
avec
voilà,
Véronique
avec Véronique Jeannot, qui était toute jeune, ça devait être son premier rôle. Et oui, en effet, alors je pense qu'il y avait surtout une tentation, que ce soit pour Avocat et Associé et pour PJ, de renouveler le regard, en fait, à la fois de la série policière et de la série d'avocats, qui était quand même pas très, très connue en France. Quoi.
Pas très développée, alors que c'est un gros succès aux États-Unis. Oui,
parce que voilà, quelques années plus tard, donc, Engrenage débarqué. Aujourd'hui, donc, il y a des séries, je disais, policières partout. Est-ce qu'il n'y a pas trop de polars à la télévision, Pierre Langlais ?
Ah, la patate chaude. Ben, ça dépend. Il y en a trop de formatés. Il y en a trop qui se ressemblent où c'est tout le temps le même truc, le même interrogatoire, les mêmes fausses pistes, les mêmes méchants patibulaires, enfin, même les mêmes. Et ça, c'est épuisant. Et puis, il y a le polar qui se cherche, qui se réinvente, qui tente des choses. Dans le cas d'Engrenage, qui va aussi un peu mettre la tête là où les séries ne vont pas beaucoup, c'est-à-dire au-delà du périph, et dans des histoires qui sont, à défaut d'être purement sociétales, en tout cas en contact avec la société. Et donc, en fait, le polar est à la fois le meilleur, le pire des genres, c'est-à-dire que ça peut être celui le plus formaté, le plus ennuyeux et celui qui répète tout le temps la même chose, comme ça peut être celui qui va, comme The Wire, hein, pour en citer une facile, série américaine, au contraire, se frotter à la société et politique plus qu'aucune série politique ne le sera jamais.
Pierre Zeméniak et Séverine Barthes, vous qui avez étudié l'histoire des séries, les séries policières en France a toujours existé, toujours de manière aussi intense qu'aujourd'hui finalement.
On peut même dire que les séries policières sont aussi vieilles que la télévision française, puisque dès la fin des années 40, au début des années 50, ça commence en fait, avec des séries comme L'Agence Notre-Dame-Us, Les 5 dernières minutes, etc., etc. Donc c'est très très ancien en fait, comme genre en France.
Séverine Barthes.
Et c'est surtout aussi un genre qui très tôt a connu des formes d'hybridation.
qu'il s'agisse avec d'autres genres, le fantastique, la chronique sociale. Et donc, je pense que c'est aussi une des forces du policier qui est sa capacité à attirer plein de choses à lui.
Pourquoi il fallait questionner le métier de flic, en fait, puisque c'est une des raisons d'être d'Engrenage à l'endroit ?
Pour cette saison en particulier ?
Ouais.
Bah parce qu'on l'avait jamais fait déjà, et justement, comme on parle de la difficulté de renouveler le polar, nous, avec Canal+, et avec Engrenage, on s'interroge d'une saison à l'autre en se posant cette question cruciale, c'est comment ne pas lasser le téléspectateur. Le métier de policier, c'est quand même un métier très répétitif. Quand on a fait des filoches, des planques, des interrogatoires, il reste pas grand-chose. Donc c'est à l'intérieur de ce cadre procédural qui est quand même très strict que nous, on essaie de réinventer le polar. Et s'il y a bien une zone à laquelle on ne s'était pas encore frotté, c'était d'interroger la fonction même de la police et ses missions et la difficulté de leur métier.
Vous aviez des consultants ?
Bien sûr.
Beaucoup ?
Trois ? Ouais, j'ai 7 consultants autour de moi. Donc, en matière de police, j'ai 2 commandants de la BRB.
C'est quoi la BRB ?
La BRB, la brigade de répression du grand banditisme.
Mmh. Et, elle est complètement dans le milieu maintenant. Donc
ah non, mais complètement, pardon, ouais. Excusez-moi.
Les filoges, la BRB, allez-y. Ensuite.
Et un commissaire du 93, évidemment, qui m'a énormément inspiré. Voilà.
Mais c'est fou, questionner le métier de flic aujourd'hui, alors qu'il y a eu un gros paquet de séries policières jusque-là, ça veut dire que jusqu'à présent, on ne l'avait pas fait de poser vraiment un regard sur l'évolution de ce métier, sur les enjeux de ce métier.
Alors, je vais bien répondre.
Oui, ouais, ouais.
Je n'ai pas l'impression, en tout cas. Nous, en tout cas, dans ce que je connais des séries françaises polars, je n'ai pas ce sentiment-là. Après, oui, du côté des États-Unis, dans The Wire, le métier de flic, ses difficultés, ses relations avec les voyous et la hiérarchie, ça a été la ligne principale de toute la saison, hein, de toutes les saisons même. Maintenant, dans Engrenage, on ne l'avait pas fait et c'est assez passionnant, quoi.
Puis à l'anglais ?
Oui, c'est vrai que c'est intéressant de questionner. Alors, je spoile rien en disant que le mot corruption est la difficulté, la ligne en fait. Vraiment, la ligne étroite, et ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de séries américaines qu'on travaillait là-dessus. The Shield, par exemple, avec beaucoup plus d'extrémisme, si j'ose dire, dans la façon dont c'était traité. Mais la ligne très fragile entre faire la justice en respectant les lois, la dépasser, jusqu'où on peut les dépasser. Je crois que cette nouvelle saison de The Wire, j'ai fait la puce, d'Engrenage questionne ça, c'est-à-dire jusqu'où on est correct en étant incorrect, et à partir de quel moment il faut dire stop, et en fait, on va devoir balancer les autres parce qu'ils ne sont plus des flics, c'est devenu des voyous.
Pierre Zemniak, dans votre livre, vous écrivez qu'il y a eu quelques innovations par le passé autour des séries policières, et notamment dans les années 80, avec Marie Pervenche, Julien Fontane ou encore Série Noire.
Marie Pervenche avait d'innovations.
Alors,
vous êtes un théoricien fou.
Alors, non.
Moi, j'adorais, personnellement, des raisons très honteuses.
Daniel Evenou en Pervenche, donc.
Oui, déjà oui. Ça me plaisait.
En fait, les années 80, c'est un moment charnière, en fait. C'est donc l'ORTF, c'est fini en 74. L'ORTF, c'était l'époque des séries historiques, des séries policières classiques. Ensuite, on passe aux années 80. Et c'est là que c'est une zone un peu grise, en fait. Et à la fin des années 80, émerge enfin un modèle qui est celui de Navarro, celui de Julie Lescaut, qui est des séries, en fait, des collections de 90 minutes. Qui sont en fait des séries télévisées un peu particulières, puisque ce sont des téléfilms. Et il faut attendre 20 ans, il faut donc attendre en fait Engrenage, en 2005, pour qu'on arrive à une forme un peu plus moderne, des épisodes de 52 minutes, des choses plus rythmées. Ça a commencé un petit peu avant sur France 2, avec, comme vous l'avez dit, PJ, etc. Mais Engrenage, c'est la première série qui, à ce point, grise en fait. Les personnages n'ont plus de limites entre le bien et le mal. Tous testent leurs limites morales. Ça va de l'avocate jusqu'au juge. Donc c'est
Mais alors du coup, Marie Pervenche, qu'est-ce qu'elle apporte à ce moment-là à la télévision ?
Sa fantaisie.
Un personnage féminin ?
Déjà un personnage féminin, tout à fait. Un personnage féminin, alors que jusque-là, c'était beaucoup de personnages masculins, inspecteurs, commissaires. On repense aux 5 dernières minutes, l'inspecteur Bourrel, par exemple. Donc oui, c'était un personnage féminin.
La comédie, parce qu'on ne se poilait pas trop dans les 5 dernières minutes, alors qu'avec
Daniel Evenou. Non, c'est vrai.
Séverine Barthes, vous partagez ce point de vue ?
En partie, évidemment, mais il me semble
je la sens moins sur le coup avec Marie Pervenche.
Non, c'est pas Marie Pervenche, c'est plus l'image un peu monolithique peut-être qu'on peut avoir des productions de l'ORTF, alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de variétés. Alors évidemment, c'était très synthétique, mais par exemple, le côté humoristique qu'on a dans Marie Pervenche, moi je trouve qu'on l'avait déjà dans La Brigade des Maléfices.
Par exemple,
les personnages féminins, on pouvait aussi en avoir dans Aux Frontières du Possible. Et en fait, je trouve que je suis tout à fait d'accord sur l'espèce de trou noir que peut constituer d'un certain point de vue les années 80, une partie des années 90. 90. Mais je crois qu'en revanche, on aurait intérêt à reconsidérer plus, avec plus de bienveillance les productions de l'ORTF, parce qu'il y a vraiment des choses innovantes pour l'époque.
Vous pensez à quoi?
Bah, par exemple, la Brigade des Maléfices. C'est une brigade, un service spécial au Quai des Orfèvres qui s'occupe des enquêtes qui ne trouvent pas d'explication rationnelle.
C'est X-Files avant l'heure. Hein.
Voilà, c'est plutôt aux frontières du possible d'ailleurs qui est plus X-Files, mais il y a quelque chose un petit peu de cet esprit-là. Et notamment, il y a un épisode merveilleux avec Brasseur, qui joue un espèce de possesseur maléfique de poste de téléviseur en location, puisqu'à l'époque, c'est dans les années 60, beaucoup de gens louaient leur télévision, qui prend possession du public.
Claude Brasseur, le Vidocq ou
non,
Pierre Brasseur? Pierre Brasseur,
Pierre
d'accord, notre époque.
Mais vous citez Vidocq, c'est important.
J'adorais Vidocq.
Oui, Vidocq et les Brigades du Tigre aussi sont des séries policières historiques, en fait. Donc c'est...
Il y avait Vidocq et puis il y en avait un autre aussi qui était le truc de l'empereur, je sais pas trop quoi. Comment il s'appelait?
Schumacher.
Exactement. C'est un lifting mental ce soir.
Vera Peltekian, quand vous avez lancé à Canal Engrenage, qu'est-ce que vous vouliez faire à la fiction policière? C'était un coup de balai? C'était un coup de pied?
Et au-delà, la fiction, en fait.
Oui, c'était amener une forme de réalisme. On avait le sentiment à l'époque que la télévision décrivait un monde dans lequel on n'avait pas l'impression de vivre dans le même monde que celui de la télévision. En fait.
Notamment des flics qui vivaient dans des appartements
absolument
magnifiques.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un traitement de leur vie privée, notamment qui s'opposait au polar. Enfin, on trouvait que ça manquait énormément de réalisme et de documentation. Donc ça a été notre première démarche, hein, tout simplement. Et puis du fait de traiter les choses assez frontalement, en fait, de montrer vraiment un cadavre, c'est-à-dire voilà. Après, nous, avec le recul aussi, on n'y passe ce qu'a pu apporter Julie Esco à son époque, à savoir une héroïne féminine, et puis PJ en termes de format, c'est-à-dire l'apparition de 52 minutes, ce qui était extrêmement... Enfin, voilà, c'est-à-dire que j'ai coutume de dire que c'est un métier jeune en France à cause... Le 52 minutes a peu d'années en France, somme toute.
Enfin, le retour.
Donc, absolument. Ça s'est fait en quelques fois, ça a été un peu chaotique, ça a à peu près 20 ans comme vous dites, donc on peut considérer que c'est un métier jeune en France et que le polar, lui, c'est un genre majeur dont la variété littéraire, au fond la variété télévisuelle du polar, elle reflète aussi la variété littéraire qui est extrêmement prolifique du genre, hein, qui est un genre très majeur en réalité.
23h29 dans le NRV, alors je ne sais pas qui les a interrogés, mais les Liminianas nient tout. Je ne suis pas très drogue, paraît-il, dans le NRV.
C'est quoi ton nom?
Cold Princess.
T'as quel âge?
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très drôle. J'ai fumé du pot, c'est marrant mais ça rend pas causant. C'est comme l'op, tu sais?
Non, je sais pas.
J'ai tâté du kiff aussi. Bof, il y a toujours ces hippies. Je pleure pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux, c'est...
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très drogue. Avec mon chien Otis, je le sors le matin, on vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable une heure ou deux avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque et là sur la plage, on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière, jusqu'au petit matin et les couleurs explosent.
Un cachou.
Non merci, je ne suis pas très drogue. Là sur la plage, quand le vinyle crépite sur la platine, ça fait... Si j'ai choisi mon chaton bleu, je twiste en regardant le ciel et la tête dans les étoiles, je ferme les yeux. La lune est mauve et les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la phase explose en mille petits morceaux d'étoiles. Je sens qu'il est temps et je rentre me coucher.
Tu devrais prendre un cachou, tu sais.
Non merci, je ne suis pas très drôle.
Ouais.
Bonjour, monsieur le juge.
Ça va pas leur plaire à la BRB, hein, de savoir que leur indique leur a fait un pied dans le dos. Tu sais ce que tu risques?
Vous êtes des keufs!
T'as le choix, soit on te balance à la BRB, soit au camarade, tu préfères quoi?
Rendez-vous.
Alors c'est sûr, ça fait très chic d'être avocate, mais dans un premier temps, ça consiste surtout, passez-moi l'expression, à faire la pute.
Prenez un avocat, on le paye pour mentir. Ils font ça très bien.
Sur France Inter.
Ah, et je... Florian, je l'adore. Audrey, ouais. Oh, énervé, on entre dans la mécanique des séries policières à la française ce soir, à quelques jours du retour très attendu d'Engrenage sur Canal+. Alors, je dis policière, mais je devrais dire aussi judiciaire, parce que c'est ça quand même la réussite, c'est qu'il y a les deux aspects. Et le côté judiciaire avait longtemps été écarté de la fiction à la française. Ça veut dire que les avocats, les juges, le système judiciaire, ça résistait à la fiction à la France, en France, mais pour quelle raison, Pierre Langlais?
C'est très bonne question. Mais la police, c'est pas compliqué. Enfin, en tout cas, la base, c'est simple. Un commissariat, c'est un endroit où tout le monde est susceptible de passer un moment à un autre. C'est la base de la fiction avec l'hôpital. En gros, tout, on est égaux. Normalement, face à ce problème-là, et si on a un souci, on peut finir au commissariat. Et donc, la série policière, c'est une série qui va pouvoir s'infiltrer dans toutes les couches de la société et du coup mettre en scène toute la société. C'est son intérêt numéro un. Pour ce qui est de la justice, c'est peut-être sans doute la même chose, avec peut-être une différence. Mais je me tourne vers les gens qui font Engrenage parce que il y a sans doute plus de fascination parce que c'est un monde qui peut être plus obscur, qu'on connaît moins bien que celui de la police, et du coup, on a envie d'aller dans les coulisses de la justice.
Oui, mais aux États-Unis, ça marche très bien. Lee McBeal, par exemple, était une réussite. En France, on avait Tribunal. C'était autre chose.
Juge Garonne.
Oui. Alors
moi, pour écrire quand même des polars depuis longtemps à la télé, j'ai senti un vrai changement entre la télé qu'on faisait avant et le système judiciaire tel qu'on en parle actuellement dans Engrenage. Il y a eu quand même un rejet, il faut le dire, sur la crédibilité du système français pendant très longtemps, parce qu'on nous a toujours expliqué, les chaînes de télé en priorité, que le système français n'était pas du tout un système spectaculaire. Contrairement à la justice américaine, où il y avait un vrai affrontement entre l'accusation et la défense au cours d'un procès, ouais. Qu'on pouvait arriver avec une preuve en plein tribunal. Le système judiciaire français n'est pas fait comme ça. Tout ce qui se passe aux assises, au moment de cette oralité des débats si importante, en fait, il n'y a rien de nouveau, finalement. Toute l'enquête a déjà été menée, et un avocat ne découvre aucune pièce au cours d'un procès. Et pour toutes ces raisons, on a jugé à un moment que la justice française n'étant pas assez spectaculaire, il fallait toujours la bricoler avec une invention, en piquant un peu à droite à gauche, chez les Américains, dans notre imaginaire.
Donc en falsifiant, voilà, en fin de compte, la réalité du système judiciaire français.
Exactement. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, dans les tribunaux français, débarquent en disant « votre objection, votre honneur
oui, ». Bien sûr, tout le monde l'a fait.
Tout le monde l'a fait.
Mais moi aussi, je l'ai fait, hein, parce que quand j'ai commencé à écrire des fictions judiciaires, oui, je me souviens très bien avoir écrit une scène avec un juge qui donnait un coup de marteau. Alors là, je me suis vraiment fait jeter, là.
Ah oui, ça se fait pas en France.
Mais pas du tout, non.
Du style « faites évacuer la salle » ou des trucs comme ça.
Ou « silence », tout simplement.
Silence, par exemple.
Moi, je m'y croyais complètement. Que je me suis rendu compte à quel point j'étais influencée par les séries américaines et tout simplement par la culture américaine, il faut le dire, et que je ne connaissais absolument pas système.
Alors justement, comment vous avez réussi à rendre ça télégénique?
Télégénique, alors d'abord parce qu'on s'entoure de consultants qui savent remarquablement bien parler de leur métier. Donc moi, je ne prends que des consultants bavards et qui ont envie de dire, qui ont des choses à dire sur leur profession. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis après, on a un système judiciaire sur lequel on s'appuie parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes. Moi, je trouve que la procédure, c'est une source de dramaturgie vraiment inépuisable. Et puis, il y a le romanesque. Voilà, c'est quand même la rencontre entre le réalisme et le romanesque en Grenache. Donc, c'est cet équilibre qu'on essaye toujours de chercher.
Benoît Lagan.
Oui, à propos du coup de consultants, j'ai téléphoné tout à l'heure à Clarisse Sèvres, qui est l'une de vos consultantes. Alors, elle était à Perpignan, dans les couloirs du tribunal, pas celui du juge Garonne, donc de vos souvenirs.
Le juge Garonne entre en salle, je te refais. Voilà.
Clarisse Sèvres, elle est avocate pénaliste, elle est consultante de justice depuis 2012 sur votre série. Et la première question que je lui ai posée, justement, c'était quelles étaient les principales erreurs commises en général par les scénaristes dans les séries policières quand il s'agissait de dépeindre le monde de la justice.
Il y a deux niveaux d'erreurs. La première est toute simple, c'est par exemple vous avez une personne qui comparaît en justice et qui est détenue, qui arrive avec sa ceinture, qui arrive avec son écharpe autour du cou, son foulard, ou alors par exemple un téléphone portable. Bien évidemment, tout ça est interdit. Donc c'est un petit détail qui est absolument contraire à la réalité du monde judiciaire. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est sur le mode de fonctionnement. Par exemple, on vous dit qu'on va faire une perquisition chez quelqu'un, où on utilise des termes américains, alors que c'est pas du tout les termes adaptés à la France. Je pense aussi à des séries françaises où on voit une connexion permanente bon enfant avec le policier et avec le juge d'instruction, alors que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, c'est beaucoup plus nuancé.
Qu'est-ce qu'on peut raconter sur l'état de vos professions aujourd'hui à travers une telle fiction, Clarisse Serre ?
Alors, on peut raconter la passion. Je trouve que ça ressort parfaitement de toutes les saisons d'Engrenage. Et à côté de ça, ça permet de montrer la pauvreté du système, puisqu'on voit le manque de moyens aussi bien au niveau des policiers, des magistrats et des avocats. Et malgré cette pauvreté, eh bien, tous ont le souci d'œuvrer dans le sens de la justice.
Vous avez eu l'impression que de montrer ça dans une série policière grand public, ça a permis de faire bouger des choses du côté de l'institution ?
Par exemple, la construction du nouveau palais de justice à Paris démontre à l'évidence qu'on veut vraiment porter attention à tout ce qui se dit et qu'on dote la justice de moyens modernes, ce qui n'est absolument pas le cas. Il suffit de voir le budget consacré à la justice en France par rapport à l'Europe. On est très très loin de pays qui sont à notre niveau, que ce soit l'Angleterre ou en Allemagne, on est très loin de ça. Alors je pense qu'Engrenage démontre au moins aux citoyens que quand ils se sentent d'une injustice, ils comprennent mieux le rouage judiciaire et la manière de travailler des uns et des autres. Et puis c'est vrai que les professionnels, pour en avoir parlé avec des policiers ou avec des magistrats, reconnaissent qu'en et bien montre la réalité du terrain.
Une dernière question, Clarisse Serre. Le personnage d'Engrenage qui vous ressemble le plus ?
Aucun. Alors, je réponds beaucoup avec humour parce que, bien évidemment, comme je suis avocate pénaliste, on a tendance à dire « Joséphine Carson me ressemble ». Il est bien évident que c'est une fiction. Il est bien évident que Joséphine Carson a à cœur de défendre les gens qu'elle défend. Mais elle utilise, dans beaucoup de cas, et c'est ce qui fait peut-être aussi l'attraction de ce personnage, des méthodes qui sont complètement interdites, qui sont tout à fait borderline.
Vous confirmez ? Un endroit ?
Oui, bien sûr.
Vous, showrunner
oui, oui, Engrenage. Bien sûr. Alors, c'était la grande inquiétude de Clarisse quand je lui ai proposé de nous rejoindre sur la série. Quand elle a vu Engrenage, elle m'a dit « Non, mais moi, j'ai trop peur qu'on me confonde avec Joséphine Carlson et je veux pas qu'on pense que je fais le même travail qu'elle. » Voilà, donc on l'a vite rassurée, mais c'est vrai que ce qui est intéressant pour les consultants, c'est que d'abord, ils parlent de leur métier à cœur ouvert. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent pas forcément dire à leur hiérarchie ou même parfois entre collègues. Surtout les avocats qui sont quand même assez isolés. Ils travaillent beaucoup plus seuls. C'est pas des groupes de flics comme peuvent fonctionner notre groupe de DPJ par exemple. Et du coup, c'est vrai que il y a leur métier est assez complexe. C'est vrai que c'est pas évident de se retrouver l'avocate d'un gros voyou quand on est seul face à lui. Et voilà. Et donc parfois il faut avoir une certaine fermeté, et Clarisse qui est quand même qui fait beaucoup de grand banditisme et qui est une femme, c'est vrai que moi elle m'a énormément inspirée pour le personnage de Joséphine en tant que femme pénaliste qui doit s'imposer dans un milieu quand même extrêmement dur.
Benoît. L'apparition des consultants, Séverine Barthe, Pierre Zimiac, c'est un emprunt aux méthodes américaines ou alors ça existait déjà en France ?
Dans des séries plus anciennes ?
C'est une bonne question, ça.
Ouais. Ça sera l'objet d'un prochain livre.
C'est une bonne question, mais ce qui est sûr, c'est qu'Engrenage marque un tournant dans la documentation, enfin, le souci du réalisme, qui, lui, doit aussi beaucoup à ce qui se passait aux États-Unis à la même époque sur le calme, sur HBO, et on citait The Wire tout à l'heure. Je pense que c'est un bon exemple, enfin, c'est une bonne référence par rapport à cette documentation.
Séverine Barthe, dans les séries américaines, des consultants comme sur Engrenage, il y en a depuis très longtemps.
Il y en a depuis très longtemps, et peut-être aussi une différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aussi beaucoup de scénaristes américains viennent d'ailleurs et ont aussi une expérience préalable dans un domaine sur lequel ensuite ils écrivent. Et je pense que ça facilite aussi sans doute leur relation avec les consultants, mais c'est effectivement quelque chose d'extrêmement ancien.
Pierre Langlais ?
Maintenant, on parlait d'Ali McBeal tout à l'heure. David E. Kelley, qui est le créateur d'Ali McBeal, est un ancien avocat. Il vient de ce monde-là et après il s'est amusé avec. Et on parlait de David Simon. David Simon est un journaliste et donc a fait un travail de journaliste, là, pour le coup, mais était aussi entouré d'anciens flics. Voilà, à chaque fois qu'il a fait une série, il y a un vrai travail de recherche qui est peut-être encore aujourd'hui en France assez rare de prendre autant de temps, parfois 2-3 ans de préparation avant de d'écrire une série, quoi.
Mais je crois aussi qu'il y a un problème, ça ce sera professionnels qui sont là d'en parler peut-être, mais que la documentation n'est pas encore réellement un poste financier dans la production d'une série française, alors que ça l'est dans une production américaine.
C'est le cas ?
Alors, je trouve que c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, les consultants ne datent pas d'Engrenage, pour être honnête. Je pense que même dans des séries très mainstream de chaînes privées, de services publics, qui avaient des consultants, avocats associés à des consultants, PJ aussi, bien sûr, mais même sur les fictions, les grands polars de TF1, hein, je pense en fait que la prise en compte, on leur demandait un travail romanesque aux consultants. Paradoxalement, il y avait une non-reconnaissance du fait que le matériel réaliste puisse être dramatisé en réalité. Donc en fait, les Français, c'est plutôt ce frein-là qu'ils avaient. Donc, bon, il y a évidemment, je pense au domaine médical et à urgence et à. Mais je pense qu'en France, il y a des consultants. Je pense que voilà. Alors après, ils ont peut-être pas la même, effectivement, le même temps de travail qu'au cinéma. Et je pense que la spécificité d'Engrenage sur ce plan-là, c'est moins leur nombre et quelle l'importance qu'on leur accorde et le fait que la réalité, ne serait-ce que la réalité des procédures puisse servir de terreau dramatique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas envisager auparavant, en fait.
Est-ce que l'imitation est un délit? Si oui, Eclipse est coupable d'imiter le gratin du hip-hop de Booba à 50 Cent depuis ses débuts en 99. La preuve, tout de suite sur France Inter.
I'm trapped in the fever, down in my soul.
Down in my soul.
Just hoping once for a breather.
Killing me all.
I tried again, I tried again, yet I'm stuck inside a game where I'm just losing everywhere. Like my dreams just run away.
So I'm holding on, I'm holding on, I'm holding on to all I am. Still I'm holding on, I'm holding on, I'm holding on to all I am. With all I hope,
all I hope.
Just hoping I never crumble like cracks in the wall.
Like cracks in the wall.
Stuck in the rain and the thunder.
Killing me all.
I tried again, I tried again, yet I'm stuck inside a game where I'm just losing everywhere. Like my dreams just run away.
So I'm holding on,
I'm holding on, I'm holding on to all I am. Still I'm holding on, I'm holding on, I'm holding on to all I am.
And girl, listen, B-boys and girl, listen up, check it. Killer be swarm in each one of my palms. Black on every goddamn song for how long? Rap a lot, hard as a center block to capture. Pip the way I'm rocking this house, we've only practiced. Turn every TV around to shout and shouting. Long Paul, kinky the flow, stay hand to Paris. Big dog in town, Eclipse the hound. Wolf arms whipping the pound, I'll shut him down.
I tried again, I tried. Yet I'm stuck inside a game where I just lose and never win. No time to waste. No, 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 no time to waste. Oh, yeah. I'm holding on. I'm holding on. I'm holding on to all I am. Yes, I'm holding on. I'm holding on.
Allô, Maigret à l'appareil.
Rendez-vous?
Bon, bah, pour le moment, moi, je vais te faire une tisane.
Oh, toi et tes tisanes, hey.
Mais ça te fera du bien.
Encore vous, commissaire?
Laurent Goumard.
Je vous avais dit que nous le retrouverions dans des circonstances désagréables pour vous.
En tout cas, je peux vous dire une chose, tout le monde vous regrette.
Sur France Inter.
C'est tout ce que je voulais savoir.
Eh bien, c'est dit. Polar à la télévision, c'est l'engrenage dans le NRV. Retour sur Canal+ de la série Engrenage saison 6. Et ça, déjà, c'est un événement d'arriver à la saison 6. Et puis, lancement dans quelques jours de la chaîne Polar+. C'est quoi l'idée? Une chaîne dédiée au polar. L'idée, c'est quoi? C'est l'overdose, Pierre Langlais, vous qui êtes critique série à Télérama?
Ben, j'en reviens à ce qu'on disait au début, c'est l'overdose si ça n'avance pas. En l'occurrence, du peu que je sais de la chaîne, alors évidemment, il faut pouvoir décoller au début, donc il faut pouvoir mettre la main sur des inédits, etc. Ce qui n'est pas si simple, parce qu'il y a tellement de chaînes qui font des séries aujourd'hui que c'est la guerre pour avoir les meilleures séries. Mais il y a une telle diversité du polar. On parle que des Américains, des Français depuis le début, mais nos amis nordiques s'en sont fait une spécialité et ils ont leur style. Alors, ils commencent à se douter eux-mêmes qu'ils commencent à tourner en rond, parce qu'une fois qu'ils ont fait 32 forêts avec de la neige dessus, de la pluie et des serial killers, on commence un petit peu à tourner en rond aussi. Mais il y a une telle diversité du polar et chaque pays, finalement, est en train de chercher sa spécificité et son ton. Et une chaîne comme Polar Plus, enfin, ça se voit dans leur première grille, ont envie d'une soirée nordique, une soirée comme ci, enfin, pour qu'on fasse un peu le tour du monde du polar. Et on n'a pas encore vu les polars coréens, par exemple.
Vous regardez ça aussi, justement? Anne Landau, vous regardez d'autres pays, pas simplement du côté des États-Unis, vous regardez...
Ah oui, je regarde beaucoup du côté de l'Angleterre.
Ouais.
Presque plus que du côté des États-Unis d'ailleurs. Enfin, je me sens plus proche de la culture anglaise en matière de fabrication de séries que des Américains.
Pour quelle raison?
Une sorte de proximité et d'intimité en fait. Et puis, je trouve que les personnages sont plus graves, plus vrais, moins beaux, voilà, déjà aussi. C'est vrai, ils sont tous beaux aux États-Unis.
Ils sont pas mal dans Engrenage, par exemple.
Oui, ouais, mais ils sont... Ah ouais. Oui, mais ils ont une belle lumière intérieure.
Oh mais c'est la beauté intérieure.
S'ils ont une beauté intérieure, ouais.
Vera Peltekian, il est vrai que à Londres, Caroline Proust, donc Laure Berthaud, se fait arrêter dans la rue.
Ce qui est drôle, c'est que Anne s'estime proche des Anglais, mais je pense que les Anglais s'estiment proche d'Anne. C'est-à-dire que les Anglais considèrent quasiment qu'Engrenage est une série à l'anglaise, dans son réalisme, dans son traitement, donc ils ont l'impression d'une familiarité avec un système qui est décrit, qui n'est pas du tout le leur, qui est étonnante. Ils ont une proximité affective avec Engrenage qui est très grande. Hein. Engrenage est diffusé avec un très grand succès sur la BBC. Et c'est rare, parce que Engrenage est diffusé en VO sous-titré, et alors que en français, sous-titré en anglais.
Vous regardez du côté d'autres pays, Séverine Barthe, puisqu'on parle du polar coréen, du polar nordique. Vous regardez aussi de ce côté-là, ou vous êtes fixé sur les Français et les Américains?
Oui, moi je suis plutôt fixé sur les Français et les Américains. Jette un peu, de temps en temps, un coup d'œil aux Allemands, parce qu'il ne faut pas les oublier. Ce sont des gros producteurs européens,
hein.
Et depuis longtemps, et le policier est une de leurs spécialités.
Mais vous êtes d'accord avec ce que disait tout à l'heure Anne sur les polars américains, sur le fait qu'ils soient peut-être moins vrais, ces personnages, que les héros de polars anglais?
Il y a série américaine et série américaine. C'est comme pour beaucoup de
comme
pays.
Comme série française et série française aujourd'hui. Oui.
Et donc effectivement, il y a des séries relativement formatées où les personnages ont assez peu de sont très lisses. Et puis on a d'autres séries où là, il y a un peu plus de profondeur ou de noirceur ou de choses qui accrochent. Et dans ces séries-là, on peut avoir, à mon sens, des choses relativement proches dans l'esprit de ce que fait Engrenage.
Pierre Simniak, vous regardez d'autres séries d'autres pays?
Plutôt des séries anglo-saxonnes, c'est vrai. Je pense qu'il y a des territoires qu'on ne connaît pas encore très bien, comme la Corée qu'on a citée, et pourtant ils font plein de séries, donc il faut absolument qu'on les regarde un jour, mais ça va venir.
Vous regardez de ce côté-là, alors, manifestement?
Non, je sais que ça existe, mais je n'y regarde pas trop. Coupable, mais c'est une culture qui, même cinématographiquement, on voit pas mal de films coréens arriver jusqu'en France, mais il y a une énorme culture pop en Corée. Il y a c'est K-pop, comment dire, la musique coréenne qui a des masses de fans incroyables, et ils font aussi pas mal de séries qui fonctionnent bien. On a la veille du Festival de La Rochelle où il y a la Corée comme invitée, donc ce sera peut-être l'occasion de jeter un coup d'œil à ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'on est encore très anglo-saxonisé, et après il y a après l'Europe, mais on regarde pas trop ce qui se fait du côté de l'Asie niveau série. Or, il y a de plus en plus de choses qui se font, quoi.
Alors la Corée, on en parlera demain, mais ce sera la Corée du Nord, c'est pas du tout la même, hein, dans le NRV de la suite.
Mais alors, une série policière française en 2017, ce serait quoi alors? Parce que si on doit citer toujours en exemple le fait qu'Engrenage a un côté anglais...
Moi j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache toute la forêt.
Engrenage?
Bah oui.
Alors moi, j'ai toujours été étonnée qu'Engrenage n'ait pas fait des petits. Voilà.
C'est ça.
2005, on est en 2017.
Saison 6.
Saison 6.
C'est remarquable pour une série.
Et c'est remarquable, je suis d'accord. Et là, ça fait deux jours avec Vera qu'on rencontre les fans. Donc c'est assez plaisant. Et on voit en fait une espèce d'une addiction assez formidable à cette série qui ne se dément pas de saison en saison. Donc,
alors, pour quelle raison elle n'a pas fait des petits, d'après vous ? Trop cher ?
Je ne sais pas. Je faut demander aux diffuseurs. Je ne sais pas.
Enfin, vous devez savoir, Vera Peltekian.
Bah, il faut se donner les moyens de, à long terme, de faire ce type de série. C'est-à-dire que c'est 12 épisodes aussi, c'est pas 8. C'est vraiment de se laisser 6 mois de plus si une saison n'est pas prête parce qu'elle n'est pas assez bien. Enfin, c'est tout un processus. Il faut être très volontariste là-dessus, effectivement, parce que c'est une série de la complexité. C'est-à-dire que, en soi, dans son dispositif, elle a rien de radical ni de... Le principe, il est simple, hein, il repose sur la collaboration entre la justice et la police. Mais effectivement, le temps de documentation, le temps d'écriture, encore une fois, pour synthétiser, l'écriture reste le maître mot, quoi. L'ambition dans l'écriture, c'est ce qui manque encore et toujours, et c'est ce qui nous anime tous, quoi.
Puisque c'est une série, vous faites attention justement que les séries soient quand même assez proches les unes des autres, les saisons. Parce que par exemple, l'échec pour les revenants, c'est qu'on a attendu combien de temps avant qu'ils reviennent ? 3 ans. Moi, j'en avais marre.
On a attendu 3 ans entre la saison 5 et la saison 6, ah, j'avoue. Ouais.
Mais vous
voilà,
faites attention
oui.
à ça ?
Eh ben, oui, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut.
Oui, mais alors la grande différence entre les revenants et une série comme Engrenage, c'est qu'il y a une telle empathie avec les personnages qui sont... ces personnages tellement humains et simples que même si on ne les voit pas pendant 3 ans, on ne les a pas oubliés dans ce qu'ils sont et pas dans ce qu'ils font. Le problème des revenants, c'est qu'on les avait oubliés dans ce qu'ils faisaient et qu'après, du coup, on était complètement perdus. C'est ça la force aussi dans l'engrenage.
Il n'y a rien, revenez.
C'est vrai, il y a des séries qui peuvent se le permettre plus que
d'autres. Il fallait aller beaucoup
plus vite. Mais pour autant, c'est pas non plus une raison pour trop traîner.
Non, bien sûr.
L'anglais ?
Non, c'est
le diffuseur qui parle là.
Vous m'avez compris.
Engrenage est une des très rares séries françaises que l'on retrouve pour ces personnages. Moi, des fois, je suis là, qu'est-ce qui s'est passé dans la saison d'avant ? Je me souviens plus. C'est pas grave parce qu'en fait, l'émotion, la connexion avec les personnages est immédiate. Et c'est quelque chose à laquelle on pense pas forcément en pensant polar. C'est une sensation qu'il y avait dans un genre radicalement différent avec Fais pas ci, fais pas ça. Tous les ans, on disait, ah, on est content, on les revoit, ces familles-là. On a l'impression de les connaître. Eh bien, ça a beau être un polar, ça a beau être glauque, il y a beau avoir de la violence. En fait, je crois que si on retourne en Engrenage, c'est surtout parce qu'en fait, on a l'impression qu'on connaît les personnages et on a envie d'être avec eux, tout simplement.
Et si Engrenage n'a pas fait les petits, c'est peut-être parce qu'elle touche à la chronique, à la vie quotidienne, et que là, les diffuseurs ont très peur de séries sur la vie quotidienne.
Oui, sur la vie quotidienne, et aussi, il faut le dire aussi, sur cet aspect réaliste de la police, du travail de la police et de la justice, qui n'est pas si grand public, et c'est et aussi fédérateur que ça, parce que c'est quand même une critique qui est assez acide de nos institutions, et voilà, ça se montre pas à n'importe quelle heure, quoi.
Vous dites que vous rencontrez actuellement les fans, il y en a qui se coiffent comme Audrey Fleurot, qui s'habillent comme elle, il y a du mimétisme, vous voyez quoi ? Il vous parle de quoi ?
Il y avait un homme hier qui s'était habillé comme... Non, je rigole.
Non.
Ça, c'était la question aujourd'hui, madame, de Laurent.
Non, mais je veux dire, quels sont le type de fans ? C'est-à-dire qu'ils vous demandent ce qui va arriver, ils vous proposent même des idées de scénario ?
Non. Alors, en fait, c'était très touchant hier, une réunion, n'importe quoi. C'était une projection pour les abonnés. Ils ont eu 2 épisodes et nous, on est intervenus entre les 2 épisodes. La projection pour eux tout seuls en avant-première des 2 premiers épisodes. Et en fait, ce qui était très touchant, c'est qu'ils intervenaient, mais ils ne posaient pas de questions. Ils parlaient de leur ressenti par rapport à la série. Il y en avait qui disaient, moi j'ai découvert Engrenage avec la saison 5, du coup j'ai tout regardé depuis le début. Moi j'adore cette série pour telle ou telle raison. C'était pas forcément des questions, c'est là que je me suis dit, mais finalement la série, ça reste quand même une expérience très intime.
Merci à tous, merci Anne Landau et Vera Peltekian. Engrenage, la saison 6 est de retour, on l'aura compris, lundi prochain sur Canal+. Pierre Ziemniak, exception française de Vidocq au bureau des légendes, 60 ans de série, ça vient de paraître chez Vendémiaire. Pierre Langlais, je signale que dans le cadre de Télérama Dialogue au Théâtre du Rond-Point à Paris, vous avez rendez-vous le 25 septembre avec Audrey Fleurot, alias Joséphine Carlson. Et enfin Séverine Barthes, on pourra vous lire dans le livre collectif Décoder les séries, c'est à paraître chez Debecq à la fin du mois. On se quitte avec une Suisse qui fait chanter les machines, c'est peut-être ça aussi un délit. Sandor en concert au Mama Festival à Paris le 19 octobre, ce soir dans le NRV.
L'asphalte brille sous mes pieds, éblouit mes yeux humides
nuit noire et glacée, drapé dans la brume, assis sur le parking, paumé d'un bar de nuit sordide, j'ai envie de l'embrasser. Je serre les poings dans mes poches et je retiens mon souffle. Pendant que je m'approche lentement de sa bouche, je serre les poings dans mes poches et je retiens mon souffle. Pendant que je m'approche lentement de sa bouche, l'asphalte noir étincelle, ébloué mes yeux timides, son beau visage ruisselle, drapé d'un brouillard liquide, sur le parking, paumé d'un bar de nuit sordide.
Que s'est-il vraiment passé pendant deux heures dans ce nouveau rendez-vous ?
Quand il y a de la passion, quand il y a de l'amour, eh ben, il n'y a pas de tabou.
Vous êtes intrépide, vous êtes jolie, vous êtes élégante.
Écoutez-moi ce con.
Bien simple, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon double féminin.
Je sais pas moi, tu es pas un homme, tu es un pauvre type.
Je faisais un an.
Vous savez, il y a un grand artiste français qui a dit « Il faut toujours aller contre votre bon goût ».
Le système français n'était pas du tout un système spectaculaire.
Ouais, il y avait un truc qui me plaisait bien là-dedans.
Et oui, c'est vraiment passé tout ça dans le NRV. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr écouter, podcaster l'émission, nous suivre sur Facebook, toujours plus nombreux d'ailleurs, on a regardé, et Twitter avec le hashtag NRVFI. Ce soir, la réalisation, c'était Jérôme Boulet et Juliette Medeviel. Préparation, l'excellente Virginie Rosic, la délicate Corinne Valente et Benoît Lagan, notre performeur à nous, qui fait son one-man show sur les séries. Deux dates, Benoît.
Le vendredi à l'Aria de Cornebarieux dans la région toulousaine et le lendemain à Groland, au Festival Groland à Toulouse.
On serait au Festival Groland.
Oui, c'est ça, pour le compteur cathodique.
Demain, on se retrouve 22h minuit et nous, on sera là avec ça. On a tous compris que la Corée du Nord s'invite dans le NRV. Jean-Jacques Benex va se passionner pour L'Embaumeur, le roman d'Isabelle de Quesnoy. Et en live, Sandra Nkake pour son nouvel album. Voilà, je crois que là, tout a été vraiment dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.
Rendez-vous.
Tu vas donner rendez-vous demain.